Galère 88.4, lecture, vous allez entendre cette émission qui est une émission en différé, lecture donc du livre de Philippe Rotet et Gérard Mordilla, Il n'y a pas d'alternative, c'est paru au Seuil en mai 2011. Vous allez dire c'est un peu lointain, mais le livre, alors qu'il en est paru bien d'autres très intéressants, hein, et notamment le dernier livre En vers de Gérard Mordilla, qui est aussi un cinéaste sur la crise économique. On connaît le livre aussi de Bernard Maris, Il y a flûte, comment il s'appelait déjà, je me souviens plus, mais ça va m'en revenir. Bernard Maris, La bourse ou la vie. Et puis récemment aussi, Pascal Canfin, qui est maintenant au gouvernement. Et si on se passait de la bourse, ça ne manque pas, ça ne manque pas. Mais celui-ci a l'avantage de faire remonter l'origine de ce qui nous arrive maintenant assez longuement avant 88, assez loin avant 88. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant. Et puis, on va essayer, Sidie et moi, de ménager le temps de faire des lectures, parce que le livre a aussi des qualités littéraires. Il est très clair et il est très vif. Alors, il n'y a pas d'alternative, ou on peut dire TINA. Hein, c'est l'abréviation avec les initiales de « There is no alternative ».« Il n'y a pas d'alternative », prononcée par Margaret Thatcher, et vous allez voir, prononcée en cascade, et c'est par là que je vais commencer pour indiquer à quel point cette idée, hein, et qu'on nous martèle depuis une vingtaine d'années, eh bien, cette idée dure toujours. Et c'est vrai que de temps en temps, je vous l'avoue moi-même, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on va y arriver à faire la peau au capitalisme? Est-ce que c'est possible de trouver un autre ordre économique? Eh oui, eh oui. Il n'y a pas d'alternative, n'épargne pas l'animatrice de l'émission Article 25. Donc, déferlante de « Il n'y a pas d'alternative ». Première, je l'ai dit, c'est Margaret Thatcher. Ensuite, il n'y a pas d'alternative au nucléaire, Valérie Giscard d'Estaing. Il n'y a pas d'alternative à la pause, Jacques Delors, 1983. Il n'y a pas d'alternative au plan de rigueur, François Mitterrand, 1983, la fin de l'état de grâce. Il n'y a pas d'alternative à la disparition de la sidérurgie en France, François Mitterrand. Il n'y a pas d'alternative à la déréglementation boursière, Jean-Charles Naouri. Il n'y a pas d'alternative à la dévaluation compétitive, c'est-à-dire à la stagnation des salaires, Pierre Bérégovoy. Il n'y a pas d'alternative aux privatisations, Jacques Chirac. Il n'y a pas d'alternative aux pesticides, aux insecticides, aux fongicides. Il n'y a pas d'alternative à la privatisation de la régie Renault, Michel Rocard. Il n'y a pas d'alternative à la guerre du Golfe, George Bush. Il n'y a pas d'alternative à Maastricht, François Mitterrand. Il n'y a pas d'alternative à la disparition de l'entreprise Moulinex, Pierre Blaiot, PDG de l'entreprise, qui la quitte avec 2 millions d'euros de primes. Il n'y a pas d'alternative au projet de constitution européenne, nos élites politiques et médiatiques. Il n'y a pas d'alternative à porter la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée à 2 ans pour les moins de 25 ans, Dominique de Villepin. Il n'y a pas d'alternative au bouclier fiscal, Dominique de Villepin. Il n'y a pas d'alternative à payer les footballeurs de l'équipe de France des Ponts d'Or, Raymond Domenech, qui ne s'oublie pas au passage. Voilà l'idée qu'on nous martèle, il n'y a pas d'alternative. Et ce livre avance en trois démarches. Premièrement, il n'y a pas d'alternative au libéralisme. On voit comment cela se décline au niveau économique. Il n'y a pas d'alternative à l'État. Et enfin, troisième partie, je dois dire qu'elle est la plus brève. Il n'y aurait pas d'alternative, point d'interrogation. Et commençons donc par un peu d'histoire économique. Notre économie et ceux qui allaient dans les HEC, hein, les hautes études commerciales, eh bien, ils ont été marqués par ce qu'il appelle la culture mathématique. Elle vient de Léon Valras et de Pariotto en Italie au début du siècle. Il y a aussi Alfred Marshall et Pigon et Hayek avec le livre « La route de la servitude ». Ça, c'est en Allemagne. Et on a créé une société, la Société du Mont Pèlerin, qui étudiait, qui affûtait ses arguments dans ce domaine économique marqué par la culture mathématique. Il faut maintenant mettre en valeur encore plus un autre nom, c'est celui de Milton Friedman. C'est l'école de Chicago en 63. Ils font irruption dans le domaine de l'économie et c'est lui, Milton Friedman, qui a inspiré Reagan. On parle communément des Chicago Boys qu'on a vu arriver et en Amérique et en France avec cette grande idée libérale de Milton Friedman. Et on voit donc à la fin des années 1960 les politiques qui étaient, dont le mot d'ordre était stop and go, on s'arrête et puis on y va, et s'essouffle. C'était ralentir et puis on relance l'économie. Et à ce moment-là s'installe ce qu'ils appellent, Roté et Mordilla, la stagflation, c'est-à-dire le chômage en même temps que la fin de l'inflation. Il y a stagnation et il n'y a plus d'inflation parce que c'était la grande peur. Et on voit apparaître le chômage avec donc une faible croissance et puis l'inflation. En 71, la crise s'accentue quand Reagan décide de ne plus appuyer le dollar sur l'or. Là, c'est grave. On nous parle souvent du choc pétrolier de 74, mais il y a une décision très importante, c'est celle de Reagan qui ne veut plus appuyer le dollar sur l'or. C'est la fin des accords de Bretton Woods. Quels sont les accords de Bretton Woods? Ils ont été signés en 1944, c'était avec Keynes et c'était des accords qui donnaient l'or comme étalon. Et à partir de là, du moment où ces accords de Bretton Woods ont été annulés, eh bien, l'économie a été flottante. Et c'est Ronald Reagan qui dit « L'État n'est pas la solution ». C'est le problème. Voilà le nouvel état d'esprit qui se fait jour après le grand dynamisme de l'après-guerre en 44 Bretton Woods et en 45. Eh bien, seulement ce qui s'est passé là, disent-ils, c'est que l'anticommunisme a pris le pas sur le néolibéralisme. Néolibéralisme représenté par l'école des Chicago Boys et Milton Friedman. C'est Ronald Reagan qui engage cela aux États-Unis à ce moment-là grandir la dette. La dette, elle est créée à cause de la guerre des étoiles, à cause de l'armement. Nous sommes en période de guerre froide et cette dette sera financée par les bons du Trésor. Il en résulte un déficit budgétaire abyssal et nous sommes en Amérique. Et on le sait qu'ils parlent beaucoup de dettes, mais ce sont eux les pays les plus endettés. Hein. Du côté de l'Angleterre, c'est Maggie qui apparaît. Et elle a raison, se fondant par rapport à la vieille aristocratie anglaise et les vieilles manières économiques. Elle se fonde sur ses origines roturières et elle a raison du grand représentant des mineurs en Angleterre, Scargill, et elle a raison aussi de Bobby Sand, l'Irlandais. Une femme qu'on n'a pas appelée pour rien la Dame de Fer, et on se souvient du film de Ken Loach là-dessus, Il pleut des pierres. Elle privilégie, cette dame, l'accès à la propriété. Ça nous fait bien penser à Sarkozy, qui veut un peuple de propriétaires, c'est-à-dire un peuple d'endettés. Et En Angleterre, seul le système de santé est sauvé, et pendant que la City devient la place la plus attractive du monde. C'est ce qu'on voit avec les organismes financiers Maggie et Ronnie, et se fait à ce moment-là le consensus de Washington, c'est-à-dire les tables de la loi, hein, expression biblique, du néolibéralisme. Et quand même, pendant ce temps, autour de Mitterrand, hein, chez nous, le village gaulois continue. Et il veut refaire 36, le Front populaire, mais il n'est pas à la hauteur. Et ce qui se passe en France, dans le village gaulois, eh bien, c'est l'avatar cartésien, on peut dire, hein, de Tina. Avatar, parce que c'est la continuation de Tina, et cartésien, parce que on le saupoudre à la sauce de la raison. C'est à ce moment-là que se fait la Fondation Saint-Simon. Qu'est-ce que c'est que cette fondation? Elle fait se rencontrer, d'une part, des gens qui ont des idées, et avec des gens qui ont des moyens. C'est pas beau, ça, autrement dit, hein, les riches sont en train de conquérir les intellectuels. Et c'est comme cela que naît ce qu'on appelle la deuxième gauche, avec les personnalités de François Furet, qu'on peut dire le traître, hein, au marxisme, et Rosan Vallon. Et on entend à Gandrange, le 13 avril 84, un vieil ouvrier dire « on a voté pour lui », il s'agit de François Mitterrand, « mais il n'est pas de chez nous ». Ils ont bien conscience que la deuxième gauche, eh ben, c'est pas la gauche, comme on dirait maintenant même. Et c'est aussi, à cette époque, le retour des grandes familles, Dassault, Lagardère, etc. Et les médias sont sous contrôle. Personne ne relaye l'information comme quoi le compagnon de Christine Lagarde propose des placements défiscalisés. Et il y a en ce moment d'ailleurs, Christine Lagarde a quelques ennuis à cause de ces affaires-là, et pas que cela, autour de Bernard Tapie. Mais il n'empêche qu'à l'époque, il se fait silence. Et ça, Warren Buffett, la première fortune du monde, n'a pas peur de déclarer « Oui, la guerre des classes existe et nous sommes en train de la gagner hein, ». Parce que la grande idée du néolibéralisme, c'est que non, la guerre des classes, la lutte des classes, ça n'existe pas. Mais lui, alors, il n'a pas peur d'être franc. Hein, et d'ailleurs, il vient de le répéter récemment, la guerre des classes existe. Et même récemment, il a dit « Je suis en train de la gagner ». Alors, quel est le rôle de l'État là-dedans? Eh bien, l'État, il s'accommode. Je reprends l'expression employée par les auteurs, les missions de brancardier d'un système qui le méprise. Parce que, je répète la parole de Ronald Reagan, le problème, ce n'est pas... l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Et bien voilà, et l'État a des missions de brancardier pour sauver les banques. Il est le brancardier d'un système qui le méprise. Et on va enchaîner, après un peu de musique, avec la seconde partie et une lecture. Il n'y a pas d'alternative à l'État. Galère, 88.4. Il n'y a pas d'alternative à l'État. Deuxième partie du livre « Il n'y a pas d'alternative ». Et je commence par une lecture. Le chapitre est intitulé « Jo et Robert dans le même bateau ». Jo avait perdu son travail à New York. Comme il ne pouvait indéfiniment squatter chez son cousin, il avait déménagé du Queens et habitait maintenant New Haven, dans le Connecticut. Jo avait épousé une portoricaine, Josefina. Sa femme travaillait dans une grande pizzeria en bordure du campus universitaire. Salaire moyen, comme la qualité des pizzas ou des pâtes qu'elle servait à ses clients, des étudiants et des profs de la prestigieuse université de Yale. Un jour, un jeune type a débarqué chez eux. Il venait leur proposer un crédit. Le gars était bel homme, propre sur lui et habillé comme un vendeur de voitures, cravate verte à pois, bague en or. Il inspirait confiance. Les présentations faites, on est passé aux questions de fond. Pourquoi Joe et Josefina n'auraient pas droit à posséder leur maison comme ils possédaient leur bagnole ? Joe, au chômage, réglait les dépenses courantes avec sa carte bancaire et accumulait les retards de paiement. Le couple n'avait pas d'économie. Peu de revenus, pas d'économie, rien. « Ce n'est pas un problème », leur a expliqué le gars. « Il faut croire en l'Amérique. Ils n'auraient pas à se serrer la ceinture. Pendant les deux premières années, les mensualités de remboursement seraient très faibles. Ensuite, elles augmenteraient légèrement. Mais entre-temps, Joe aurait certainement retrouvé un boulot et la maison aurait pris de la valeur. Le banquier leur offrait du taux variable. » Un taux indexé sur le taux directeur de la Banque centrale américaine, majoré d'une marge et le tout sur 25 ans. Pour définitivement les convaincre, le type bien habillé leur avait assuré qu'en cas de problème, Joe et Josefina pourraient toujours vendre leur maison et empocher la plus-value. Top là, l'affaire fut vite conclue. Joe et Josefina choisirent une maison un peu excentrée dans un lotissement tout neuf. Joe voulait avoir un jardin. Josefina avait accepté de faire 4 heures de transport par jour pour permettre à son mari de faire pousser des petits pois et de la menthe. Début 2009, changement de décor. Comme plus de 4 millions de foyers américains, Joe et Josefina n'ont plus de maison. Il y a un an, leur bien a été saisi par la banque pour non-paiement des mensualités. Leur maison a perdu plus de 50% de sa valeur et malgré ça, ne trouve pas d'acheteur. Joe et Josefina n'ont plus rien. Encore ont-ils la chance de ne pas dormir dans la rue ou dans leur voiture grâce à la solidarité portoricaine. Ils occupent la chambre d'un cousin de Josefina, parti en Afghanistan, dans un régiment de marine pour financer ses études. On voit là un avatar du film contre Wall Street, General Motors contre Wall Street ou une association de propriétaires de maisons qui ont perdu toute leur valeur. Et voilà comment Joe et Josefina se sont fait avoir. Mais ils ne sont pas les seuls. Et on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, en France et plus précisément à Montbéliard. À des milliers de kilomètres de New Haven, très loin de la pizzeria du campus, de l'autre côté de l'Atlantique, à Montbéliard, Roger, assis un peu en retrait de sa fenêtre, regarde les élèves qui jouent dans la cour de l'école à côté de chez lui. Les cris des enfants, les bruits de leur jeu ne lui parviennent pas. Un double vitrage l'isole du monde, sans compter la télévision qui fonctionne toute la journée. Roger a été licencié il y a quelques semaines. Le bruit de sa presse lui manque. Le sous-traitant automobile pour lequel il travaillait depuis qu'il a quitté Gandrange a mis la clé sous la porte. Délocalisation. Le destin de Joe l'Américain et celui de Roger le Français sont liés. C'est parce que le premier s'est fait refiler un prêt qu'il a été incapable de rembourser que le second pointe au Pôle emploi. Entre les deux, les banques et les organismes de crédit ont vendu et revendu les créances immobilières pourries en les noyant au milieu de produits financiers plus présentables, type obligations d'État. Des produits qui sont partis comme des petits pains jusqu'à ce que l'on découvre que des millions de Joe étaient incapables de rembourser les emprunts, que les biens sur lesquels ils étaient garantis n'avaient pas la valeur annoncée. Cela rappelle l'histoire juive des pantalons à une jambe qui ne sont pas faits pour être portés, mais seulement pour être vendus et revendus tant que personne ne s'avise de les enfiler. Les banques qui avaient mis leurs doigts dans le pot de confiture se retrouvaient collées avec des subprimes. Les subprimes, ce sont les crédits à risque qui sont accordés aux foyers américains, qui sont des foyers qui ne sont pas riches. les banques qui avaient mis leurs doigts dans le pot de confiture se retrouvaient collées avec des subprimes dont plus personne ne voulait. Sérieusement malmenées, certaines en faillite ou à deux doigts de l'être, elles ont serré d'un coup les cordons du crédit aux entreprises et aux particuliers. Et voilà comment une crise financière née aux États-Unis s'est transformée en crise économique mondiale, de New York à Moscou, de Pékin à Francfort, du Connecticut à Montbéliard. Partout on a fermé les entreprises, partout on a licencié, partout le chômage est reparti en flèche, partout la consommation a piqué du nez, alors que les chantres du libéralisme nous prédisaient, quelques semaines auparavant, 1000 ans d'un bonheur ruisselant. Voilà donc évoqué l'année 88 et l'idée qui se fait jour, il n'y a pas d'alternative à l'État. Et on le voit à travers, on voit le lien entre la crise des subprimes et Roger de Gandrange, la crise des subprimes qui tombe sur Joe, et puis ce qui se passe à Montbéliard pour Roger, sont bien mis en valeur les responsables, banques et organismes de crédit. Et ces autorités financières et économiques ont vite retrouvé une alternative. L'alternative, c'est l'État, comme indique le titre là de cette seconde partie du livre. Quand les pertes s'accumulent, c'est vive l'État. En 2008, la faillite de Lehman Brothers, aux autres de prospérer sur leur centre, sur leurs cendres. Lehman Brothers, on a vu des images à la télévision, on voyait les jeunes employés de Lehman Brothers partir avec leur carton sous le bras à toute vitesse. Et la confiance, elle, ne se ralentit pas, à cause de cette intervention de l'État. Alors on peut se demander, étant donné l'ampleur de cette crise, si on est en 29. C'est une comparaison qui se fait souvent. On peut dire comment cela se passe, comment cela s'est passé en 88 et 89 pour équilibrer leurs comptes. Les banques, elles ont coutume de se prêter de l'argent en fin de journée. Ça s'appelle dénouer dans le vocabulaire de la comptabilité bancaire. Or, ce n'est plus le cas. Et par conséquent, ce sont les banques centrales qui doivent le faire. Et cela leur coûte très, très cher. Alors, comment se tirer de cette situation terrible, hein? Et on a vu Jean-Claude Trichet, le directeur à ce moment-là de la Banque Centrale Européenne, faire veiller à ses taux d'intérêt et veiller toujours à ne pas avoir trop d'inflation. Et ça, donc, se fait jour une théorie, c'est la théorie de la résilience. Elle va de pair avec le grand succès, datant déjà de quelques années, de Boris Cyrulnik. Il y a trois façons de réagir. D'une part, faire un écran de fumée, donner via les médias des explications contradictoires. Deuxièmement, il faut trouver des boucs émissaires. Et enfin, troisième façon de remonter la pente, il faut arranger l'histoire de façon que rien ne change. Autrement dit, la crise est une petite difficulté du capitalisme, mais il va s'en tirer très bien avec la résilience et ça va repartir comme avant. Et je vais vous donner un exemple, ce sera la troisième lecture de cette façon dont il brouille les choses. On voit, Alain Minc qui se sent soudain des sympathies avec son origine, Et puis, il se doit de réagir parce qu'il faut faire quelque chose contre cette crise. Alors, comment va-t-il réagir ? Fin septembre, sur France Inter, il pourfend ses amis et ses clients. Il est clair que les rémunérations des banques ne seront plus ce qu'elles étaient. Cela dit, les actionnaires ont payé car ils ont perdu leur mise. Ce qui est plus choquant, c'est que nombre de managers n'ont pas payé. Ils sont même partis avec, dans leur besace, comme on dit, leur golden parachute, parachute dorée. Mais ça, c'est fini. C'est une époque terminée. Vous ne pouvez pas mettre autant d'argent sur la table sans mettre quelques bornes au système. Il faut que certains paient. Le fait que certains banquiers américains soient partis au moment où leur banque était en faillite avec 150 millions de dollars, c'est insupportable. Il accuse les parachutes dorés. Et début octobre, sur RTL, il redécouvre le discours paternel. Je disais, il revient à ses origines, celui du FTP MOI, car le père d'Alain Minc était un FTP MOI, ces résistants communistes d'origine étrangère qui défendaient directement du Comintern. Ils ont été utilisés en première ligne dans les opérations les plus risquées et les plus dures. Ces héros communistes ont payé un très lourd tribut à leur engagement. On a parlé du groupe de 24 membres de Missak Manoukian. Ils furent arrêtés, jugés et 23 furent exécutés. Et là, c'est une note que je vous lis, mais je trouve qu'elle vaut le coup de voir comment, Alain Minc, c'est pas son père. Mais il se désolidarise, comme font remarquer les auteurs, de son milieu d'adoption. Et nous sommes le 23 septembre 2008. Écoutez, si la bourgeoisie n'est pas capable de traiter elle-même ce problème, pour employer un mot marxiste, Jean-Michel Afati tombe à la renverse. Il est toujours à RTL, celui-là. Dans votre bouche, si la bourgeoisie, Minc ne se démonte pas. Je suis le dernier marxiste français. Rideau de fumée. Une autre chose qui est dite à cette émission, ce qui est frappant chez Marx, c'est qu'il est incroyablement juste en ce qui concerne la crise actuelle. Et Alain Minc répond, dans cette crise, Keynes aurait été comme un poisson dans l'eau. Keynes a toujours été un chaud partisan de l'intervention massive des États quand la situation tangue. En termes marxistes, il y a une lutte entre la finance et le reste de la société. Ça y est, ils ont trouvé un premier bouc émissaire, une première reformulation, un premier rideau de fumée sur la crise. Ce n'est pas la crise du capitalisme, non, c'est la crise de la finance. Et alors on va trouver, c'est le second moment de la résilience, on va trouver des boucs émissaires, ce sont les traders. On parle des traders, on a vu le cas en détail de Jérôme Kerviel. Eh bien, les patrons, alors qu'ils sont désignés comme boucs émissaires, alors que les patrons gagnent 100 fois plus qu'eux. C'est Thatcher et Reagan, côté politique aussi, sont en train de gagner beaucoup plus que les traders, même si on parle beaucoup d'eux. Les Français, alors, vont avoir une autre explication, une explication plus économique. Ce sera les 3D. Que sont les 3D ? C'est pas les 3D de la culture, du rôle des loisirs avec Geoffre Dumasdier. C'était détente, distraction et développement. Non, là, c'est pas ça du tout. Les 3D, c'est désintermédiation. C'est un mot bien compliqué. On va voir ce que c'est. Décloisonnement et déréglementation. Alors, qu'est-ce que la désintermédiation ? Eh bien, c'est le fait que les banques pourront se faire prêter de l'argent par la BCE sans qu'il y ait d'intermédiaire. Par conséquent, la fluidité des monnaies et de la planche à billets sera plus importante. Deuxième mot, c'est le décloisonnement. On voit, alors ils appellent ça décloisonnement, en fait c'est que les gros se mettent ensemble au détriment des petits. Et on voit par exemple le lien, la fusion qui se fait entre la BNP et Paribas pour donner lieu à un BNP Paribas. Enfin, déréglementation, les flux financiers ne seront plus réglementés et cela amène à ce phénomène de titrisation, c'est-à-dire que les banques, sans être surveillées, eh bien, elles pourront mélanger dans des sortes de sandwich, hein, de millefeuille, comme on dit, des titres qui sont des trucs qui ne valent plus rien, avec titres qui sont des... Ils vont vendre des reconnaissances de dette, c'est ce qu'on appelle le phénomène de titrisation, avec l'invasion aussi de ce que on appelle les produits dérivés. Et on ne s'en prend alors, et ça continue maintenant, hein, qu'au capitalisme financier. Là, je déborde un peu du livre. On a vu que c'était une promesse électorale de François Hollande. On a vu que on voulait diviser, comme ça s'était passé à l'époque de Roosevelt aux États-Unis, à la fin de la grande crise de 1929, séparer nettement les activités bancaires d'investissement avec les activités de prêt à ceux qui sont les actionnaires des banques et qui se font prêter de l'argent. Eh bien, cela n'a pas été fait du tout de façon radicale. Il y a une certaine réglementation des banques, mais elles peuvent très bien, par le biais de filiales, se débrouiller pour se faire de l'argent sur le dos de tous les contribuables et surtout des pauvres. C'est ainsi qu'on va passer maintenant à ce qu'ils appellent, après, là j'aime bien leur formule, c'est une certaine qualité littéraire qu'a ce livre, c'est ce qu'ils appellent la valse à quatre temps. Alors ces quatre temps sont d'une part l'éloge de la mondialisation, hein, ah oui, et il faut, et là il y a deux façons de voir les choses à partir du moment où la mondialisation, c'est un fait, pas d'alternative. Hein. Là, ils ne l'ont pas mis dans les phrases du début, parce que c'est plus récent, je pense. Et on va voir la donne qui va changer. Alors, deux politiques sont mises en place. D'une part, il faut baisser les impôts. C'est ce qu'on annonce. Et deuxièmement, c'est le cap sur Walmart, c'est-à-dire la grande distribution. Et ça fait partie du changement de la donne, du changement de langage de nos décideurs économiques et aussi politiques. Dans un troisième temps, maintenant, on incite même ceux qui sont très pauvres, à recourir à l'emprunt. Et on fait entendre aux USA des centaines de Daniel Cohen qui incite à la télévision. Hein, c'est l'expert soi-disant indépendant, mais on sait qu'il est lié à de grands groupes financiers. Eh bien, expliquer qu'il faut emprunter, que c'est la confiance qu'on doit avoir et que l'économie va repartir grâce à cela. Et le quatrième temps, c'est ce que nous avons sous les yeux, à savoir une intensification de la crise. Les choses vont de plus en plus mal, même si on est bercé de bons mots et de belles promesses, mais c'est une chose qui ne laisse pas dans l'ombre le fait que la crise s'accentue. On peut faire une comparaison avec Henry Ford, hein, en 45. Il salariait, et c'était un émule de Keynes, il salariait suffisamment ses ouvriers pour qu'ils puissent acheter les voitures qu'ils fabriquaient. À nouveau paradigme, nouvelle stratégie, cap sur Walmart. Contrairement à Henry Ford, Sam Walton, qui est le patron de Walmart, chaîne d'hypermarchés devenue leader mondial de la distribution, réduit tellement les revenus de ses employés qu'ils ne peuvent plus faire leurs courses ailleurs que dans ses magasins. D'ailleurs, les salaires sont tellement faibles que, par contagion, dès que Walmart s'installe quelque part, les revenus du district baissent de 5,4%. Certains y verraient une catastrophe. Pas Jean-Marc Vittori, chroniqueur aux Échos. L'impact baissier sur les salaires n'est pas forcément une catastrophe si les prix diminuent encore davantage. Vittori omet d'indiquer que tous les produits de Walmart sont fabriqués en Chine, qu'au nom du profit immédiat, l'entreprise a détruit une grande partie de l'industrie de biens de consommation américaine, que des centaines de milliers d'emplois plus ou moins qualifiés ont disparu, que des vies ont été ravagées. Jean-Marc Vittori ne veut pas le savoir, il préfère oublier. Après tout, les victimes de ces délocalisations ne sont que des ouvriers dont il a déjà fait le deuil depuis longtemps. Alors on voit le rôle des journalistes, notamment du journal Le Point, le journal qui est centre. Non, c'est pas Le Point, c'est Les Échos, journal économique que l'on prétend assez impartial, mais ce n'est pas vrai. C'est le journal au service de l'économie néolibérale. Je viens maintenant à faire une autre lecture, celle qui concerne le quatrième temps qui se déroule sous nos yeux et qui fait la conclusion de la deuxième partie de ce livre. Il n'y a pas d'alternative, Rotté et Mandilla. Donc, quatrième temps, il se déroule sous nos yeux. Si le système lui-même n'est pas remis en cause, les économistes antilibéraux estiment que la crise va s'intensifier. Pour eux, il paraît évident que dans les pays à protection sociale élevée, le chômage continuera d'augmenter, que, pour survivre, les populations précarisées n'auront d'autre choix que de consommer des produits fabriqués dans des pays qui exploitent leur main-d'œuvre, accentuant encore le chômage et les délocalisations, tirant tout le monde vers l'abîme, creusant toujours plus l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. C'est une spirale infernale, la baisse des revenus entraînant une baisse des recettes de la protection sociale. Les réformes seront encore plus nécessaires. Des réformes, encore des réformes, toujours des réformes de plus en plus meurtrières qui détruiront définitivement ce qui reste du socle des 30 glorieuses. Voilà, le livre est écrit avant, juste avant les grands mouvements en Europe, hein, qui sont des mouvements populaires contre les politiques d'austérité, dites ici par encore des réformes, toujours des réformes, mises en place par les gouvernements et par l'Europe, qui font que les Grecs qui n'avaient déjà rien au fond de leur poche, on leur demande encore de retourner leur poche pour trouver de l'argent. Et c'est le moment de parler des pigs, hein, c'est joli comme nom, hein, on les appelle les cochons, Portugal, Italie, Grèce, voilà des pays où l'on voit ces mouvements sociaux importants. Et quant aux pays émergents, comme l'Inde par exemple, eh bien c'est bien cela que l'on voit, des inégalités qui s'accroissent. Quand on pense à ce que sont payés les ouvriers qui, au Bangladesh, travaillent dans les usines de textile, et on voit à quel point cette politique est meurtrière pour les peuples. Galère, galère, avant d'aller vers la dernière partie, la conclusion de ce livre. Nous allons écouter un peu de musique. Merci Sidi. Troisième partie du livre, « Il n'y a pas d'alternative » de Roté et Mordilla, paru au Seuil en mai 2011, sous-titre « 30 ans de propagande économique ». Dernière partie, « N'y aurait-il pas d'alternative ?» Eh bien, on prétend qu'il y en a, mais ce sont de fausses solutions et de fausses alternatives. C'est la poudre aux yeux. Et la poudre aux yeux, c'est de nous faire croire que les paradis fiscaux, c'est fini. Hein ? Les paradis fiscaux, il est paru une liste noire, une liste grise. Et puis tout le monde voudrait être ni sur l'un ni sur l'autre. Et puis des pays qui étaient sur la liste noire ont glissé dans la liste grise, voire ce sont des paradis fiscaux comme par exemple le Luxembourg, eh bien, se sont vus tirer des mauvaises listes. On proclame quelque chose et puis ensuite on traficote et les trois listes sont devenues deux. C'était noir, je le répète, grise et blanche. Et selon l'OCDE, les fuites fiscales coûtent 500 milliards aux pays du Sud. Et je le répète, ceux qui ont publié les trois listes, eh bien, ils ont reculé. Il y a bien eu un essai de poudre aux yeux. Et ça a été la loi Dodd-Frank, pas moins de 2500 pages avec 500 règlements. Eh bien, ce qui devait être un stop à la déréglementation bancaire et à l'existence des paradis fiscaux, eh bien, en fait, après cela, les banques ont été contentes. Hein. Elles pourront continuer sans trop d'entraves leurs affaires. De même, les dirigeants d'agences de notation, hein, ces agences de notation qui distribuent les AAA ou les moins et qui, soi-disant, sont indépendantes, mais qui, en fait, sont payées par les mêmes qu'elles sont en train de noter, eh bien, ce n'est pas comme cela que l'on pourra avancer vers avoir dans la tête une alternative. Et l'autre question à voir aussi, c'est que c'est la fameuse question du déficit dont on parle souvent. On se souvient de la grande conférence qui a eu lieu au Tourski à Marseille il y a environ 3 semaines. Eh bien, les pays qui sont les pays de la zone euro ne peuvent plus financer leur déficit par leur banque centrale. Et c'est ainsi qu'ils continuent de dépendre des marchés. Là, toute la question, c'est la question de la dette. Hein. Faisons bien la différence entre ce qui est déficit et ce qui est dette. Déficit, c'est la différence entre tout ce que l'État dépense et tout ce qu'un pays dépense et tout ce qui rentre, par exemple, les rentrées du commerce extérieur, qui n'est pas les... Et là-dessus, hein, le déficit est important en France. Et puis la dette publique, c'est le fait que l'État doit emprunter pour pouvoir payer ses fonctionnaires, payer tout ce qu'il a en charge en tant qu'État. Et là, eh bien, cette dette, on n'entend plus parler que de cela. Il faut absolument réduire la dette. Et cela signifie une politique d'austérité. Et cela signifie la montée du chômage. Il y a non pas une baisse du chômage, mais une décélération de la montée du chômage en décembre. C'est une nouvelle qui est à prendre avec des pincettes, parce que décembre, on sait qu'avec les fêtes de Noël, il y a des emplois qui se font. Là, le chômage grandit en France et dans toute l'Europe et ailleurs. C'est dans leur zone euro qui est une zone réputée riche. et ailleurs aussi, hein, le chômage est extrêmement important. J'ai parlé tout à l'heure des PICS, Portugal, Italie, Grèce, on les appelle les cochons, hein, c'est PICS, c'est le mot anglais pour cochon. Et pour illustrer cela, hein, une dernière lecture que je prends là au début de ce chapitre. Et je vais citer, hein, Terre solidaire, Comité catholique contre la faim pour le développement, CCFD, qui milite depuis des années contre les paradis fiscaux, souligne avec humour sur son site internet la richesse mondiale est créée dans certains pays et fréquemment enregistrée sur le plan comptable dans d'autres. Il résulte de ce décalage des bizarreries statistiques. Par exemple, le premier importateur de bananes dans l'Union européenne est la petite île de Jersey, au large de Saint-Malo. Cultivées par des multinationales dans les pays producteurs, les bananes sont vendues à des filiales enregistrées dans l'île, pratiquement à leur prix de revient. Revendues ensuite juste en dessous de leur prix de vente aux filiales qui les commercialisent en Europe, leur marge est enregistrée à Jersey, où elle est très peu taxée. Le plus fin limier, le Sherlock Holmes du XXIe siècle pourrait toujours arpenter l'île de long en large, y chercher les bananeraies, les hangars frigorifiques où seraient stockés les fruits pour les faire mûrir. Il ne les trouverait pas. Ce sont des bananes virtuelles. En revanche, il découvrirait l'immense profit qu'il y a à les défiscaliser sur cette île anglo-normande. Un profit qui, lui, n'est pas visuel. Jersey est une sorte de paradis fiscal, mais il en existe bien d'autres types. En tout cas, ce qui est un paradis pour les uns devient vite un enfer pour les autres. L'ONG chrétienne estime que ces fuites fiscales coûtent 500 milliards aux pays du Sud. Le réseau Tax Justice Network multiplie par 3 le manque à gagner total. Son directeur estime qu'un tiers de la richesse mondiale passe par les paradis fiscaux et que cette richesse fait défaut au financement de l'éducation, de la santé, des programmes sociaux et au remboursement des dettes contractées par la crise. On voit là, hein, au niveau mondial ce qui se passe. Les dernières nouvelles disent que Starbucks est le grand producteur de café qui fait de grands bénéfices et qui obtient une défiscalisation en France et en Angleterre a des ennuis, de même est mis en cause, de même Apple, mais ces grandes sociétés ont des armées d'avocats qui sont bien prêtes à les défendre. Et c'est ainsi qu'on voit que la solution passe par une réorganisation totale du système et non pas par ce qu'on peut appeler des emplates sur des jambes de bois ou des solutions qui ne sont pas comme par exemple la lutte des paradis fiscaux ou là, ou en ce moment, ce que l'on fait contre ce que les États pour qui lèvent l'impôt au fond contre Starbucks ou bien Apple, et ils sont loin d'être les seuls, mais cette défiscalisation qui entraîne les besoins d'exil fiscal, eh bien, elle fait très très peur aux PME et aux TPE, mais en fait, ceux qui en profitent véritablement, ce sont les grands groupes, et ceux-là, ils sont bien solidement implantés dans leurs privilèges. En parlant de défiscalisation, je relève quelque chose que j'ai lu tout dans Le Monde diplomatique là, du mois de janvier. Il paraît que la mode maintenant, hein, dans les dîners de personnes qui sont riches, qui sont à la tête de grandes entreprises, c'est de dire « Ah, je songe à partir ». Qu'est-ce que ça signifie ? Songer à aller s'installer en Suisse, hein, pas en Russie, hein, comme Gérard Depardieu, ou bien en Belgique, comme le fait celui qui se tortille là, pour essayer d'avoir la nationalité belge. J'ai un trou de mémoire pour son nom, mais vous aurez tous compris de qui il s'agit parce qu'on en parle beaucoup. Alors, il paraît que c'est la dernière mode dans les grands dîners parisiens qui réunissent des centaines de personnalités économiques de dire « Ah ben, je songe à partir ». Ça signifie qu'on n'est pas un petit, qu'on est quelqu'un d'important et qu'on va vouloir mettre son argent à l'abri. Galère, galère. Alors, entre ceux qui pensent à leur intérêt personnel, ceux qui pensent à l'intérêt de la planète, vous aurez compris, hein, il y a une alternative et ne nous laissons pas faire par Tina. C'est sur ces derniers mots que je vais vous laisser en espérant que cette présentation du livre vous aura permis d'avoir un regard un peu distancié, mais plein de malice et de lucidité sur ce qu'on appelle la crise. Galère, galère.